Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
Et avant de retrouver le petit déjeuner de l'actu avec nos éditorialistes Philippe Bidger et Eric Revel, et bien sûr vos appels à vous au 0826 300 300, tout de suite, qu'est-ce qui fait parler ce matin avec Félix Mathieu?
Et Félix, on commence par ces villes où l'épidémie flambe, c'est le dossier du Parisien aujourd'hui en France.
Oui, 20 départements sous surveillance, de nouvelles mesures pourraient entrer en vigueur le 6 mars. Le Parisien qui nous dresse aussi ce classement des métropoles les plus touchées par taux d'incidence, je vous les donne dans l'ordre. Nice, Metz, Aix-Marseille, Paris, Lille, et puis Lyon, Toulouse et Toulon. Un dossier à retrouver dans Le Parisien aujourd'hui en France, avec d'ailleurs une infographie assez complète pour voir dans le détail quelles sont les zones où le virus est le plus actif au-delà de ces grandes métropoles.
Confinement et vaccins, ce sont les défis du mois de mars. En tout cas, c'est ce que nous disent les Échos.
Oui, la concertation avec les élus de ces zones sous surveillance aboutira à des restrictions locales en cas de dégradation, en tout cas d'ici le 6 mars. L'Île-de-France redoute une vague d'hospitalisation. Très débattue, la question de faire des vaccins un bien public mondial s'avère par contre compliquée à réaliser, selon les Échos. Donnez-lui sa chance, plaide justement Nice Matin, le journal qui se fait l'avocat de devinez qui, du AstraZeneca. Et oui, le vaccin arrive sur la côte et les spécialistes rassurent sur ses effets secondaires, nous dit Nice Matin, d'où ce titre, donnez-lui sa chance.
Du côté du petit bleu d'Agen, une affaire assez révoltante, Félix.
Oui, le cambriolage de Trochet Emmaüs, c'est vrai que c'est jamais bien cambriolage, mais là quand même ça paraît être une des pires cibles possibles, d'autant que c'est la troisième fois en 6 mois. Emmaüs, Agen, encore victime d'un cambriolage, donc le préjudice financier fragilise une structure solidaire déjà très secouée par la crise sanitaire. D'ailleurs, le cambrioleur a été filmé lors de son forfait, on le voit avec son bonnet noir sur la tête à la une du Petit Bleu.
Allez, plus léger cette fois-ci, Félix, on passe au petit déjeuner. On va au petit déjeuner, en tout cas, dans cette revue de presse avec la Nouvelle République des Pyrénées.
Oui, alors attention, le petit déjeuner, en fait, de nos amis à quatre pattes, sauf si vous aimez les croquettes.
C'est pas pour nous.
Sauf si vous aimez les croquettes, je vous le déconseille. Ça se passe du côté de l'Améac, dans les Hautes-Pyrénées. Pyrénées Canin produit depuis 10 ans des croquettes pour chiens à partir de produits locaux pyrénéens. Des croquettes saines, très appréciés par nos fidèles compagnons. Bon, a priori, ils n'ont pas été directement interviewés par la Nouvelle République des Pyrénées pour confirmer, mais en tout cas, on voit qu'il a plutôt l'air très content dans son élément, ce petit chien qui prend la pause avec un responsable de l'entreprise au milieu de l'entrepôt rempli de croquettes. C'est vrai que ça doit être le paradis pour lui. Il a même peut-être eu une croquette pyrénéenne en récompense pour avoir pris la pause pour la Nouvelle République
des Pyrénées. Voilà, on termine en tout cas cette revue de presse avec vous, Félix, avec le nouveau visage de l'Olympique de Marseille à la une de la Provence.
Oui, avec l'Argentin Jorge Sampaoli qui prendra ses fonctions dans quelques jours. Il a notamment entraîné par le passé le Chili, l'Argentine. Un personnage haut en couleur, au caractère volcanique qui arrive donc à Marseille. Tout un programme et c'est donc à lire dans la Provence.
Merci beaucoup Félix Mathieu. On poursuit cette revue de presse avec du sport également à la une de la Dépêche du midi. Bonjour Nicolas Moscovici.
Bonjour.
Rédacteur en chef adjoint donc de la Dépêche. Alors du sport, mais c'est pas le sportif qui fait parler, c'est cette polémique autour du 15 de France avec cette bulle sanitaire qui a éclaté. Vous notez notamment c'est le bleu, la douche écossaise avec l'annulation de ce match finalement entre l'Écosse et la France dimanche. En tout cas, le report.
Ouais, effectivement, voilà, c'est notre dossier du jour. On revient effectivement sur ce report. Donc c'est l'équipe de France qui est privée de match contre l'Écosse dimanche en raison donc d'une flambée de Covid non maîtrisée, puisque 12 joueurs au moins et 4 membres de l'encadrement ont été testés positifs sur ces 15 derniers jours. Alors on revient justement en longueur sur ces 15 derniers jours, on pose des questions de savoir comment la bulle a pu être percée, est-ce qu'il y a peut-être pas de chance, est-ce qu'il y a eu des négligences. On sait qu'une enquête a été lancée par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. On sait aussi que le sélectionneur national, Fabien Galtier, est un peu au centre des interrogations. Lui se défend d'avoir enfreint le protocole sanitaire. Enfin, en tout cas, c'est dommage, c'est ça aussi qu'on écrit, c'est que c'est dommage que cette polémique arrive à ce moment-là. Sur le terrain, l'équipe de France est emballante, enthousiasmante. Ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on n'avait pas vu une équipe de France aussi joueuse. On attendait aussi ce match contre l'Écosse dimanche avec intérêt, puisque l'Écosse était la seule équipe qui nous avait battu l'année dernière, qui nous avait privé du Grand Chelem de 2020. Elle a battu l'Angleterre en ouverture du tournoi. Donc voilà, c'était un match qu'on attendait avec impatience. On verra quand est-ce qu'il pourrait être refixé. Pour l'instant, la date n'est pas connue. On pourrait la connaître aujourd'hui.
C'est un chamboulement globalement hein, dans le Sud-Ouest. C'est une terre de rugby, on le sait. C'est un chamboulement aussi pour, bah, pour tous les passionnés, pour les clubs aussi, j'imagine. Il n'y a pas qu'au sein du 15 de France, finalement, que ça a des conséquences.
Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout nous, évidemment, dans la région très rugbystique, bah avec un rugby à l'arrêt en plus, hein, parce que c'est vrai que le rugby professionnel a repris, mais pas le rugby amateur. Donc nous, c'est énormément de clubs qui effectivement ne jouent plus tous les dimanches. Donc c'est vrai que l'équipe de France était un petit peu la bouffée d'oxygène ces dernières semaines, ces derniers mois. Voilà, cet épisode tombe là. Il faut voir comment les Bleus vont pouvoir se relever de ça. On sait qu'il y a des tensions aussi en interne. Voilà, est-ce que l'équipe de France pourra reprendre sa marche en avant? C'est un petit peu la question qui reste en suspens avant les prochaines échéances. Et d'ailleurs, le prochain match pourrait être contre l'Angleterre.
En tout cas, le titre bleu, la douche écossaise, le dossier complet à retrouver eh bien, dans la Dépêche du Midi aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas Moscovici, rédacteur en chef adjoint à la Dépêche, et bonne journée à vous.
Merci. Allez, à 9h moins le quart, c'est l'heure de retrouver le petit-déj de l'actu avec vos appels, bien sûr, au 0800 26 300 300. Si vous voulez réagir au sujet de vos choix, on en a beaucoup, beaucoup autour de cette table et autour de nos éditorialistes que l'on retrouve, Philippe Bigère et Éric Revel. Rebonjour messieurs.
Bonjour Laurence.
Rebonjour. On va parler notamment eh bien en longueur hein, de la situation sanitaire en France, et notamment commençons par la conférence de presse eh bien de Jean Castex hier soir. Déjà Éric Revel, c'était plutôt une déception ou pas cette conférence de presse? Au final, il n'en a pas sorti grand-chose, j'ai l'impression.
Non, il n'en est pas sorti grand-chose. Bon, on est quand même passé de la veille, il y avait 10-13 départements qui étaient en surveillance renforcée. Là, on est passé à 20 quand même, donc ça, c'est un chiffre quand même en augmentation. Bon, ça, c'est pour le fond, vous voyez, c'est un peu réduit. Peut-être des mesures sanitaires contraignantes supplémentaires la semaine prochaine, mais sur la forme, c'est quand même terrible. Avec tout le respect qu'on doit à Jean Castex, à ce qu'il incarne, le terroir, etc., je trouve qu'il n'imprime pas du tout, quoi. C'est assez terrible. C'est-à-dire que on l'écoute, mais on a l'impression qu'il dit toujours la même chose. Parce que d'abord sur la forme, j'ai l'impression que le ton est toujours ponctué de la même manière. Il commence en l'air, il termine avec un point. Il commence en l'air, il termine avec un point. Ouais, et tout ça finit par. Vous voyez, on dit les Français sont las des mesures sanitaires. Bon. D'une certaine manière, les Français, il y a une certaine lassitude aussi quant au discours du Premier ministre. Ce que je regrette, parce qu'on sent que c'est un personnage sincère, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui prennent la lumière, il y a des gens qui ont un ton qu'on écoute, et il y a les gens qui n'ont ni l'un ni l'autre.
Philippe Bilger, vous partagez cet avis d'Éric Revel, ça n'imprime pas, c'est une forme de petite musique monocorde finalement qu'on entend de la part du Premier ministre?
En grande partie, mais il faut reconnaître à la décharge de Jean Castex, c'est que il est plombé d'une certaine manière par la comparaison constante que les Français font avec son prédécesseur, qui a peut-être commis des erreurs durant son mandat de Premier ministre, mais qui, dans la gestion et l'explication de la crise, à tort ou à raison, apparaissait comme très remarquable, avec un mélange de modestie et de clarté que le Premier ministre Jean Castex n'a pas. C'est terrible d'avoir un prédécesseur qui vous projette forcément dans la médiocrité. Et juste un mot encore, Benjamin, si vous me permettez, c'est que moi, je n'y comprends plus rien.
Mais j'allais vous le demander, justement, parce que c'est vrai que... Allez-y.
La stratégie du gouvernement n'est pas très limpide, et je reste gentil, et la seule chose qui freine un peu ma critique, c'est que je ne me suis jamais considéré comme pratiquement tous les Français comme un médecin, et que je ne surestime pas la tâche, je veux dire, elle est très dure à faire. Je ne suis pas un adepte du il n'y a qu'à, il faut qu'on. C'est très difficile, mais pour être difficile, on a tout de même le droit à un peu de lisibilité.
Bah Philippe, pour vous rassurer, c'est la question qu'on pose d'ailleurs à nos auditeurs depuis ce matin, sondage du jour, est-ce que vous comprenez justement le choix du gouvernement de ne pas reconfiner les autres départements à risque? Bon, il y a 43% de gens comme vous, d'auditeurs en tout cas, qui nous écoutent, qui ne comprennent pas du tout ce choix. Il y a pas mal de messages. Il y a un message de Véronique qui nous écrit « Macron chouchoute les Parisiens en vue des élections ». Qu'est-ce que ça vous suggère, ça?
Je sais pas. Il y a tout de même la proposition de la mairie de Paris qui va être probablement...
Dans 3 semaines.
Je ne crois pas qu'elle sera acceptée, je ne crois pas, mais
et
tout
on
est
en
possible.
On en reparlera d'ailleurs avec, avec notre invité juste après 9h de cette question de Paris. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en 7 jours, plus ou moins, en une semaine, on a d'un côté, il faut reconfiner les week-ends sur le littoral, du côté des Alpes-Maritimes, du côté de chez vous, Éric Revel, et puis du côté de l'agglomération de Dunkerque, et puis de l'autre, finalement... sur les 20 départements qui restent, bon, on a le temps d'attendre jusqu'au 6 mars. Est-ce que là-dessus, c'est ça dont vous parlez finalement, Philippe Bilger, sur ce manque de logique ou de cohérence, ou en tout cas, on a du mal à comprendre.
Oui, Benjamin, et ce qu'a dit votre invité tout à l'heure, c'est-à-dire ce hiatus entre ce qui est développé sur le plan européen avec l'idée d'un pass sanitaire qui paraît très contradictoire avec la volonté d'amplifier les vaccins. Je me demande si le gouvernement lui-même, et je le dis sans aucune dérision, n'étant pas dépassé par les événements, n'a pas pris le parti non plus de les administrer, mais de nous proposer un pluralisme dans l'action qui devient un véritable casse-tête pour lui. J'ai dit casse-tête, pas casse-tête. Et pour les citoyens. Voilà.
Éric Revel l'a tué.
Moi, je vais vous dire, j'écoute tout ça avec un peu de détachement parce que je partage la lassitude des Français. Moi, je trouve que voilà. On continue de parler de la crise sanitaire sans savoir où on va par définition. Bon, c'est le lot commun de tout le monde, et jusque y compris d'ailleurs des politiques, c'est ça le drame. Mais je crois qu'on en a marre en fait d'entendre parler de crise sanitaire, de Covid, de confinement. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On dit que le président de la République réfléchirait à laisser vivre les Français avec cette crise sanitaire. Alors, je ne sais pas quelles mesures il pourra prendre qui ne s'appellerait pas confinement. Mais je crois que c'est ça, en fait. On en a marre d'entendre parler de la crise sanitaire. On en a marre d'entendre parler de ces mesures contraignantes. Et je me demande si une majorité de Français, maintenant, avec la vaccination quand même qui progresse, ne serait pas prête, cette majorité de Français, à tenter le coup, c'est-à-dire à dire « Ok, on va essayer de vivre avec, mais laissez-nous vivre, quoi. » Je crois qu'on en est là, quand même. On en est là, c'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression que les oreilles se ferment, pas seulement à cause du ton un peu monocorde de Jean Castex, mais parce qu'on en a soupé de cette crise sanitaire, et que on sait bien qu'elle n'est pas derrière nous pour l'instant, mais en fait, on voudrait presque qu'on nous parle autre chose.
C'est vrai, ouais.
On voudrait qu'on nous parle d'autre chose que de Covid, de crise sanitaire, de confinement, de restaurants fermés. On voudrait... je sais pas si Philippe partage mon avis, mais on est très las de tout ça. Et moi, je préfère entendre parler du 15 de France qui est forfait contre l'Écosse, vous voyez.
Mais on en parlera d'ailleurs.
Voilà que. Parce que là, on est un peu submergé, on en a marre.
Il y a pas mal de réactions.
Philippe Bilger, rapidement, et puis après, on ira au standard parce qu'on a des appels.
Je rejoins totalement Eric parce que ce qui me frappe, et là j'en veux beaucoup au gouvernement, c'est qu'on commence l'année en quelque sorte en ayant un espoir très fort par rapport au vaccin, et on peut le dire, l'incurie du vaccin a dissipé cet espoir et nous a fait retomber dans ce que vient de décrire très bien Eric, une sorte de monotonie pluraliste et contradictoire. Ça devient un peu lassant, alors que le vaccin, s'il avait été géré à la perfection, aurait amplifié l'espoir et nous aurait permis de recouvrer rapidement. Alors il suffit pas de dire que c'est merveilleux, la France a réussi à vacciner les vulnérables et les plus de 75 ans. Ouais. Je remercie au Premier ministre de penser à moi tout de même, mais n'empêche que je trouve que c'est lamentable la gestion du vaccin.
Je voulais rajouter quelque chose.
Oui, allez-y, Eric.
J'avais dit que j'en parlerais plus, donc je vais quand même faire une exception. C'est que ce qui m'agace aussi profondément quand j'écoute Jean Castex et quand je m'accroche plus de 2 minutes à ce qu'il dit, c'est cette espèce d'autosatisfaction française qui ne correspond pas du tout à la réalité. On est les meilleurs, notre taux de contamination, il n'est pas pire qu'ailleurs. D'ailleurs, tous les autres pays sont comme nous. Il y en a marre parce qu'en plus, c'est pas vrai. Donc, voilà, donc, il y a un peu ce ras-le-bol général et finalement, on s'accroche à des petites choses quand on écoute Jean Castex qui sont finalement des détails et qui nous font dire qu'on en a assez d'écouter et de parler de ça. Voilà.
Allez, on file au standard. 0826 300 300. Vous nous appelez. On est avec Benoît qui nous appelle, c'est ça?
Ouais, Benoît qui nous appelle.
Oui, c'est Benoît.
Bonjour Benoît. Faites bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour.
Vous voulez parler de quoi avec nos éditorialistes?
Oui, bonjour. Je suis assez d'accord avec Eric.
mon point de vue. Je crois qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des cons, honnêtement. Que les gens sortent dans la rue, qu'ils descendent autour de la campagne, qu'ils lèvent les yeux au ciel, qu'ils regardent la nature et qu'ils se disent « Ah ben finalement, la terre est encore là, elle tourne, et la saison arrive, le printemps, ça bourgeonne, voilà. » On est en train de bloquer le pays pour... là, je regardais une carte de France, c'était sur le Parisien, où dans le pire des cas, il y avait 0,6% de cas positifs sur les tests. 0,6% de cas, on parle même plus de morts ou de malades ou de gravement malades. Et au bout d'un an, il est logique qu'il y ait une lassitude, ça suffit, à un moment donné, il faut s'arrêter. On n'aura pas le choix, il faudra vivre avec. On n'aura pas le choix. Je ne crois pas que le vaccin soit l'alpha et l'oméga. Je ne suis pas anti-vaccin, mais moi, me faire injecter une dose de vaccin ARN messager, un prototype d'un truc qu'on n'a jamais fait encore, je ne suis pas chou, je ne crois pas être le seul.
Alors, il n'y a pas que des vaccins avec l'ARN messager, il y en a d'autres, mais en tout cas, vous, c'est-à-dire en tout cas, ce virus ne vous fait pas peur, c'est ça?
Ah non. Je crois qu'on a oublié, avant, on nous apprenait à prendre des vitamines d'hiver, à soigner son corps, à manger comme il faut, à soigner ses anticorps. Je crois qu'il faut faire aussi ça. Alors, je ne dis pas que les virus n'existent pas, c'est pas ça le problème.
J'entends bien.
Je suis conscient que quand on est gravement malade, on est gravement malade, mais cela, ça concerne... on a eu 80 000 morts en France, je crois, c'est ça, 80 ou 80 000 morts, je crois.
On a dépassé les 80 000.
Un an. Et l'année dernière, on a continué on a supprimé, je crois, 20 000 lits d'hôpitaux. D'hôpital, ça va pas, quoi. Mm-hmm. Je veux dire, si on est en crise à ce point-là, on doit augmenter les lits, on les réduit pas. Mm. Donc il y a une discordance cognitive que les Français captent, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit à la télé toute la journée, dans les médias. Et ce que les gens sentent, moi personnellement, je ne connais pas un mort du Covid. Pas un. Il y en a, c'est pas le fait. Mais
plus de 85 000 morts, pour préciser.
65 millions d'habitants. Donc il faut. Je compare cette crise, cette gestion de crise, à ce qu'on a, nous, dans l'élevage des canards. Je ne suis pas agriculteur, moi je suis artisan, mais j'ai des amis éleveurs de canards qui souffrent terriblement de la grippe aviaire.
Bien sûr.
Quand je vois faire les traitements qu'ils ont, c'est-à-dire que les entreprises, quand il y a un cas déclaré, ça arrive avec des entreprises spécialisées, tout en blanc, avec des tenues, on dirait un accident nucléaire. C'est-à-dire que c'est un bazooka qu'on utilise et qui fait peut-être plus de dégâts qu'autre chose.
Après,
tout ce périmètre, je crois qu'on gère aujourd'hui une surprotection, une surréaction qui sera peut-être...
Tout en nuançant sur la comparaison entre les canards. J'espère qu'on n'est pas les canards. Mais bon. Mais en tout cas, on comprend la nuance que vous donnez. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous l'entendez, Eric, justement à l'instant, Benoît qui nous disait effectivement qu'il y avait une forme de saturation aussi de sa part. Ça confirme un petit peu ce que vous disiez sur les Alpes-Maritimes là pour ce week-end, là, avec ce reconfinement. Comment on le vit? On en parle beaucoup, j'imagine, sur place. Ouais.
Lassitude.
Je vais vous dire comment on le vit. Je vais dire comment on le vit mal, mais ce qui est en train de se passer, et on le voit parce que on a fait des sujets sur Azure TV, on a interviewé des gens, c'est que ce qui se passe, c'est que les mares alpins, notamment les Niçois, ils vont passer leur week-end août, d'après vous, avant 18h. Ils vont aller dans le Var. Vous voyez, ils vont aller dans le Var. Ils vont aller dans le Var, donc il y a des hôtels ou des campings qui sont en train de se remplir. Résultat des courses, si on a le taux d'incidence qu'on a supérieur ou pas loin de 600, votre avis, il va aller où? Il va aller où le Covid-19? Déjà, le Var a dépassé
les 300 taux d'incidence.
Il va se déplacer dans le Var, vous voyez. Et puis, si le Var est confiné le week-end, vous savez ce qui va se passer? Ils vont aller dans les Bouches-du-Rhône, les gens du Var, vous voyez. Et les Bouches-du-Rhône sont déjà sur un taux d'incidence très élevé. Donc, non seulement on ne sait pas si ce confinement du week-end sert à quelque chose, c'est 25% sur le temps d'une semaine normale, c'est 2 jours sur 7, sur 8, mais en plus, il y a une migration du week-end qui est en train de se mettre en place, des Alpes-Maritimes vers le Var, puis du Var peut-être vers les Bouches-du-Rhône, et au risque d'amplifier les taux d'incidence de départements qui vont peut-être basculer eux-mêmes dans le confinement du week-end. Enfin, franchement,
de toute façon, Eric Revel, on n'a pas assez de recul et d'informations scientifiques par rapport à l'efficacité justement de ces week-ends confinés.
Mais attendez, Laurence,
ponctuels.
On n'a pas de recul forcément, puisque nous, on est pilotes dans les Alpes-Maritimes.
Oui, c'est ça.
Christian Estrosi. Vous êtes les cobayes.
C'est le maire de Nice qui a souhaité ça. Pas le cas de la plupart des maires des Alpes-Maritimes. David Lisnard à Cannes, j'en parlais l'autre jour, qui sont contre. frein, bon. Mais bon, peu importe. Mais attendez, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Parce qu'on a, on a été pilote aussi, vous savez, pour le couvre-feu à 18h, nous. Hein.
Ah, c'est vous qui avez toujours tout commencé, en fait.
Ah oui, nous, on commence, nous, on est les pilotes. Voilà. On est pilotes. Alors, qu'est-ce qu'on nous avait expliqué? Qu'on ferait des points d'étape, des trucs pour voir si ce couvre-feu à 18h était efficace ou pas.
Oui, semaine
ben,
après semaine.
Les points d'étape. On est passé à autre chose, maintenant, on est passé au confinement du week-end. Bon. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi qui exaspère les gens, vous voyez, et qui s'agglomère finalement à la lassitude générale dont je parlais tout à l'heure, c'est que on est tous des bons garçons et des bonnes filles, on fait ce qu'on nous demande de faire, on l'applique parce qu'on n'a pas envie de se prendre une amende, mais on ne voit pas le résultat, vous voyez. Et cette lassitude générale, qui n'est pas propre aux Alpes-Maritimes ou à Nice, en fait, c'est une lassitude qui fait qu'au bout du compte, est-ce que les Français vont continuer à être des bons garçons et des bonnes filles et à respecter les contraintes qu'on met en place. À force d'user et peut-être d'abuser, on est en train de faire des trous dans le tissu social et des trous tout court. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens ont envie de respirer. Quoi.
Ouais, Éric Revel, Philippe Bilger, vous restez avec nous dans quelques instants, juste après le journal de 9h. On recevra le maire du 17e arrondissement, maire LR de Paris, pour voir un petit peu Geoffroy Boulard, pour voir un petit peu justement comment on appréhende cette décision, cette volonté de la mairie de Paris, d'instaurer un confinement de trois semaines, confinement intégral. On verra ça avec lui dans un instant. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Il est 8h59.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans le Grand Matin, à suivre de 9h15 jusqu'à 10h. Le bonheur est dans le village. C'est le titre d'un livre optimiste. Voilà, comme quoi on va pas parler de Covid, comme le disait tout à l'heure Éric Revel, de notre invité Nicolas Hazard. Pour lui, vous le verrez, la réponse à la crise, c'est à la campagne. Il va nous raconter 30 histoires de vrais gens, comme on dit.
Qui sont, des belles initiatives.
Qui sont réinventées là-bas, voilà, loin des villes. Et ça marche. Mais tout de suite, à 9h05, on retrouve la suite du petit-déj de l'actu avec vos appels, bien sûr, au 0826-303. Philippe Bilger, Éric Revel et notre invité aussi, Benjamin Geoffroy Boulard. Il est maire LR du 17e arrondissement de Paris. Bonjour.
Bonjour Geoffroy Boulard, merci d'être avec nous ce matin. Alors c'est Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui a fait savoir hier soir qu'un confinement de trois semaines allait être proposé. Déjà, est-ce que vous étiez au courant, en tant que maire du 17e, qu'une telle proposition allait être faite?
Alors ça peut vous paraître surprenant, mais je suis maire d'un arrondissement, il y a 168 000 habitants. J'ai appris par dépêche AFP cette proposition et cette annonce du premier adjoint à la maire de Paris hier. Donc non, on n'a pas du tout été mis dans la boucle. D'ailleurs, il y a des adjoints de la maire de Paris qui s'en sont étonnés, parce qu'ils n'ont même pas été informés dans leur équipe, quoi, au sein de leur équipe. Donc moi, je dénonce la méthode, c'est un sujet important. On peut être d'accord, pas d'accord. Le sujet, là, c'est la forme. Ça doit être discuté avec les maires d'arrondissement qui sont élus dans Paris. Et puis surtout, ça doit être discuté avec la région Île-de-France, avec les autres maires de la métropole du Grand Paris. Parce que cette décision parisienne, si c'est ce que va proposer la mairie de Paris, elle a des conséquences aussi sur la vie des habitants, des Franciliens qui viennent travailler tous les jours à Paris. Enfin, c'est pas neutre, donc moi je suis un peu surpris. Bon, je pense que c'est surtout une volonté pour la maire de Paris de faire parler d'elle, de mettre en avant son premier adjoint qui était en mal de notoriété. C'est un coup politique, franchement, qui est malvenu, parce que c'est déjà assez lourd pour les Parisiens, pour les Franciliens, ce contexte depuis un an. Confinement dur de trois semaines, qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de faire croire que dans trois semaines, si on confine complètement, eh bien tout va redevenir comme avant.
C'est ce qu'ils disent justement. Ils disent, voilà, ils justifient en fait cette annonce en disant, si on confine totalement, reconfine totalement trois semaines, on pourra rouvrir d'une part les restaurants, d'autre part les lieux culturels. Ça, c'est quoi? C'est une illusion qu'on offre finalement aux Parisiens, ou il y a un fond de vérité possible là-dedans?
Non, mais ce dont on a besoin, c'est vrai, c'est de perspective. Mais il faut que ce soit réaliste. Trois semaines, on ne va pas faire croire que aux habitants, aux commerçants qui sont fermés. Je crois que M. Grégoire, il a dû oublier quand même que les commerces et les restaurants, ils étaient fermés. Donc non, il faut être sérieux sur ces sujets-là. Et puis surtout, il faudrait savoir sur quelle base scientifique il s'appuie. Parce que nous n'avons pas les chiffres sur ce qui va se passer la semaine prochaine, dans 15 jours. Les élus locaux, ils demandent de la visibilité, notamment en matière de vaccination. Si s'il y a une reprise d'épidémie plus forte, comme on peut le constater, donc tendance haussière sur l'Île-de-France et sur Paris, eh bien, il faut aussi que l'État nous donne les moyens de vacciner davantage. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, il y a des stocks de vaccins qui ne sont pas utilisés, qui sont détenus par le gouvernement et l'État, qui ne veut pas nous donner des doses pour vacciner nos plus anciens, hein, qui aujourd'hui nous appellent et nous disent « on ne peut pas se vacciner, monsieur le maire, il faut appeler en province pour le faire ». C'est inadmissible. Mettons le paquet sur la vaccination. Évidemment, restons très vigilants, donc ayons des mesures pour freiner l'épidémie, mais on ne peut pas revenir à un confinement comme on a connu l'an dernier. Les habitants sont à fleur de peau. On a quand même une pression psychologique, économique et sociale. Il faut s'adapter, c'est sûr. Mais ça ne doit pas être un diktat d'une mairie, cœur de métropole mondiale, hein, quand même. On a l'impression qu'on vit dans un village gaulois à Paris, et que peu importe ce qui se passe ailleurs, au-delà du périphérique. Donc c'est quand même une vision aussi politique très étriquée de la part de la maire de Paris, qui n'a pas été très courageuse sur ce coup, parce qu'elle aurait pu l'assumer elle-même, cette proposition, plutôt que d'envoyer son...
C'est pas elle qui l'a annoncé, effectivement. On va faire réagir nos éditorialistes qui sont direct avec nous, Éric Revel et Philippe Bilger. Éric Revel, déjà, quand vous entendez justement le témoignage de Geoffroy Boulard, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même surprenant.
Oui. Moi, je partage les arguments de M. Boulard. Je vais même en rajouter un petit peu, si vous voulez. C'est que pourquoi trois semaines? Pourquoi pas un mois? Pourquoi pas 15 jours? Pourquoi pas 24 jours et 12 heures, vous voyez? Donc, il y a quelque chose, évidemment, du message politique très fort, hein, qui veut peut-être ainsi montrer que Paris se singularise. Mais tout ce qui a été dit me semble frapper au coin du bon sens. Pourquoi? Mais parce que Paris, il y a le mur qui enserrait Paris n'existe plus à de rares exceptions près. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre une décision comme ça sans en parler aux grandes communes de la première couronne autour de Paris. Enfin, tout ça me semble évident. Et puis, je veux dire, l'engagement de dire qu'au bout de trois semaines, par exemple, pour une mairie comme Paris, on rouvre les lieux culturels. Mais voyez l'engagement que ça représente. C'est-à-dire que la mairie de Paris n'a pas des infectiologues ou des épidémiologistes de renommée mondiale à l'intérieur de cette mairie. Donc ça veut dire qu'ils ont le sentiment qu'au bout de trois semaines, ils seront en capacité de rouvrir, tiens, les théâtres, tiens, les cinémas. Mais alors, il ne faut pas critiquer le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui décide, lui, de rouvrir ses musées. Enfin, voyez, ça part dans tous les sens. Donc, je partage l'idée, mais peut-être que la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'en expliquera, mais je partage l'idée que c'est un coup politique, que ça n'a aucun fondement scientifique, que c'est une façon de singulariser Paris par rapport à d'autres communes, Paris la capitale, Paris qui rayonne de tous ses feux, mais je vois pas comment tout cela est possible, et surtout, c'est peut-être le préfet qui va donner son avis, et je pense que le préfet refusera cette idée. Mais en tout cas, Paris aura fait une proposition, et Paris aura fait parler d'elle.
Alors on est toujours en ligne avec Geoffroy Boulard, hein, maire du 17e arrondissement de Paris. Philippe Bilger, vous vouliez réagir aussi, je crois.
Alors Benjamin, je vais être un peu plus long que d'habitude, comme j'ai beaucoup de retard dans mon temps de parole, comme dirait un politique.
Installez-vous.
D'abord, je voudrais instiller un peu d'optimisme par rapport à ce qu'a dit notre auditeur tout à l'heure, Benoît et
ouais.
Par rapport au constat un petit peu très pessimiste d'Éric, c'est le fait que, d'abord, je ne discuterai pas, comme l'auditeur, l'utilité des vaccins. Deuxième élément, je ne crois pas qu'on puisse comparer le nombre de morts de la Covid-19 avec d'autres fléaux qu'on a connus, parce que ce qui fait l'angoisse, c'est à la fois le nombre de morts et le fait qu'on est confronté à un phénomène totalement imprévisible. C'est cela qui fait l'angoisse. Mais pour rejoindre l'excellente appréciation de monsieur le maire, il a totalement raison et je me reproche peut-être comme vous, Benjamin, si je suis votre question de tout à l'heure, d'avoir été un peu naïf parce que immédiatement j'avais perçu ce confinement possible de trois semaines comme une chance, dans la mesure où il aurait libéré les énergies et les activités à partir du début du mois d'avril. Tout en étant persuadé que c'est un coup politique. J'y voyais peut-être une possible avancée, mais monsieur le maire Boulard m'a fait perdre radicalement toutes mes illusions. Et je crois qu'il a raison. Et je crois qu'il a raison.
Vous voyez donc, Geoffroy Boulard, vous avez vu ce que vous avez fait à notre Philippe Bilger.
Le pauvre.
Voilà.
Non, mais c'est tout l'intérêt de vos débats où on échange.
Bien sûr.
On partage. Ouais. Voilà. Faut aussi le dire. Bon, non, moi, ce que je veux aussi rappeler, c'est que Anne Hidalgo, et ça a été rappelé par Éric Revel aussi, Anne Hidalgo, elle se fait un coup de com' pré-présidentiel, elle a besoin de faire parler de Paris. Moi, j'aimerais qu'on parle de Paris sur la propreté, sur la sécurité, sur l'attractivité. Je rappelle quand même qu'il y a 8 jours, la maire de Paris, elle voulait rouvrir les théâtres et les musées. Imaginez si le préfet avait donné son accord lundi dernier pour rouvrir. Monsieur Grégoire n'aurait pas fait cette déclaration hier soir.
Hier soir.
C'est-à-dire, il y a beaucoup d'opportunisme. Moi, je suis quand même très surpris que ça prenne autant de résonance, parce que nous, on n'a toujours pas été réunis depuis 8 jours, alors qu'on l'est, toutes les semaines. Et comme par hasard, on a une annonce du premier adjoint qui engage toute la capitale, mais au-delà, toute l'Île-de-France, sans concertation. Bon, voilà, je crois qu'il faut revenir à la raison. Nous, on a demandé une réunion des maires d'arrondissement avec la maire de Paris, le préfet de police, parce que vous l'avez rappelé, c'est le préfet de police qui a la main sur le dispositif sanitaire à Paris. Après, on regarde aussi les chiffres, on écoute aussi ce que nous disent les médecins, et la tension hospitalière est forte, mais il faut aussi que l'État se mettre au diapason. Moi, ça fait un mois que j'ai un centre de vaccination fantôme, c'est-à-dire tout est prêt, et ça fait un mois que je suis autorisé par la préfecture et qu'il n'y a pas les doses. Donc il y a quand même un problème d'anticipation. On nous a demandé de rapidement nous mettre en ordre de marche pour créer des centres, et je ne peux pas créer le deuxième centre parce qu'il n'y a pas de doses. Ouais. Or, il y a des doses, et quand on a des territoires qui sont plus contaminés que d'autres, l'État devrait mettre le paquet pour qu'on puisse vacciner davantage, et puis évidemment bien continuer sûr à tester et à isoler. Voilà, mais l'activité économique, elle ne peut pas s'arrêter comme elle s'est arrêtée au dernier confinement.
Mais là-dessus,
il faut être plus prudent.
Éric Revel, oui.
Oui, ouais. Non, juste là-dessus, Monsieur Boulard, il faudra que l'Europe rende des comptes. Parce que ce que vous dites pour Paris, moi, je le vis au quotidien avec les maires des grandes communes des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône. C'est-à-dire que moi, j'entends des maires, des Jean Leonetti, des David Lisnard, des Jérôme Viau qui me disent « Mais mon cher Éric, on ouvre, même si le terme est moche, des vaccinodromes, on en a ouvert 2 ou 3, où on s'interdit d'en ouvrir, mais en fait, on n'a pas de dose. On n'a pas de dose. Donc ça veut dire que ce que dit le Geoffroy Boulard sur Paris 17e est vrai partout en France, et que ce fiasco, il a une origine. On peut m'expliquer les choses comme on veut. Bon, ok, les laboratoires français n'ont pas été capables pour l'instant de développer des vaccins. Ça, c'est un premier fiasco. Mais le fiasco central pour moi, c'est l'Europe, dont la santé n'est pas une compétence, je le rappelle, qui a voulu s'arroger le droit de centraliser les vaccins en payant pas, avec aucune transparence sur les contrats signés. Résultat des courses, on est en pénurie. Pourquoi ? Mais parce que les laboratoires qui sont britanniques ou qui sont américains, ils ont des réflexes de souveraineté. Ils servent d'abord la Grande-Bretagne ou ils servent d'abord les États-Unis. Nous, on a voulu faire ça, la solidarité européenne. Résultat des courses, c'est un échec. C'est-à-dire que ce qu'on constate en France, d'autres pays le constatent. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'Allemagne est en train de faire valider un vaccin allemand, le CureVac. Ils sont en train de le faire vacciner. Le seul pays, parmi les grandes nations, en tout cas, telles qu'on les présentait, qui n'a pas de vaccin, c'est la France. Et on a tout délégué à l'Europe, qui répartit la pénurie comme un peu l'Europe. On en est là.
Geoffroy Boulard, juste d'un mot, vous avez parlé d'une demande de réunion, du coup, par rapport à cette annonce à Paris. Demande de réunion avec le préfet de police, avec la maire. Vous avez déjà eu un retour ou pas du tout?
À ce stade, on ne l'a pas. J'espère qu'on va être réunis rapidement, au plus tard lundi. Moi, j'entendais parler d'une conférence de presse du premier adjoint ce matin. Je ne sais pas si elle a été maintenue. Je trouve que c'est des méthodes qui ne se font pas. On devrait d'abord être concerté. Une décision comme ça, elle devrait faire consensus au-delà des différences politiques. Je veux dire, il faut que tout soit solidaire pour porter des mesures de confinement, de durcissement, d'aménagement. Sur un territoire comme Paris et au-delà du Grand Paris et de la région Île-de-France. Donc voilà, il faut revenir à la réflexion est une chose, la concertation aussi est une chose, et là Paris se grandit pas en faisant un coup politique, politicien, voilà, on est quand même à la veille de la rentrée pour un certain nombre quand même de parents d'élèves là. et qui sont aussi des salariés, ils vont rentrer dans un climat où on ne sait toujours pas ce qui se passe lundi à cause d'un premier adjoint qui a fait une annonce où il parle plus en son nom, d'ailleurs, qu'au nom de l'équipe municipale, parce que si on regarde bien, il a même retiré le tweet qu'il a fait hier soir. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de cacophonie au plus haut niveau à l'hôtel de ville.
Non, en tout cas, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Geoffroy Boulard, je rappelle, maire LR du 17e arrondissement de Paris. Et merci également à vous, Philippe Bilger et Éric Revel, d'avoir été avec nous pour ce débat très, très intéressant. Ouais. Merci à vous, bonne journée.
Et bon week-end confiné, Éric, hein, là-bas du
côté
de Nice.
Bon courage, surtout, voilà.
Bon, allez, dans quelques instants, on arrête un petit peu avec le Covid, justement. On va aller au vert, on va être optimiste, on va faire du bien en cette veille de week-end. Le bonheur est dans le village. C'est un livre, mais c'est aussi... les convictions de Nicolas Hazard. Pour lui, la campagne, c'est la crise et c'est la réponse à la crise et surtout c'est le monde de demain. On en cause tout de suite.